Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Oui, la manifestation du 14 juin à Paris était une réussite. Combien même on ne retiendrait que le chiffre de 80 000 participants donnés par la police, il s'agit d'un incontestable succès. Sans compter les dizaines de manifestations qui se sont tenues ailleurs, comme à Marseille, à Toulon ou à Nîmes. Alors que les manifestations s'enchaînent quasiment chaque semaine depuis près de 3 mois et que certains travailleurs comptent 15 jours ou un mois de grève, cette mobilisation a témoigné une fois de plus de la profondeur de la contestation. Alors, réduire cette journée de mobilisation à quelques centaines de casseurs, comme l'a fait le gouvernement, est une véritable insulte à tous les manifestants. Et c'est une opération politique qui vise à occulter la mobilisation, à faire diversion et à cacher le fait qu'une grande majorité des travailleurs reste résolument opposée à cette loi. Parce que c'est évidemment cela qui gêne le gouvernement. Cela fait 3 mois que le gouvernement répète les mêmes mensonges patronaux. 3 mois qu'il mise sur l'usure des manifestants, rien n'y fait. Eh bien, le gouvernement... Bah, attends que ça passe.
Le vent de la révolte.
Eh bien, le gouvernement a maintenant remisé tous ses mensonges au placard et il est passé au chantage, aux invectives, aux calomnies. Complaisamment relayé par les médias, Valls et Hollande s'étaient déjà lancés dans de violentes attaques contre les grévistes des raffineries et contre les cheminots, accusés de prendre le pays en otage, de manquer de solidarité vis-à-vis des sinistrés des inondations et même de gâcher cette belle fête qui est supposée être l'Euro de football. Enfin, tout y était passé et la CGT a même été accusé de faire du terrorisme social. Et bien maintenant qu'il n'y a presque plus de grève, ça continue. En se servant des casseurs, le gouvernement accuse la CGT, son service d'ordre, ses militants, d'être complices, responsables, voire les instigateurs des violences. Et à ce titre, il menace d'interdire les prochaines manifestations. Et bien oui, tout cela montre une chose, c'est que le gouvernement est un ennemi des travailleurs, capable des pires attaques anti-ouvrières et déterminé à faire taire les travailleurs, y compris en les réprimant et en les bâillonnant. Eh bien, montrons à Valls, à Cazeneuve et à Hollande que leurs coups de menton ne nous impressionnent pas. Montrons-leur que loin de nous décourager, ils nous confortent dans notre volonté de les combattre. Alors préparons-nous à répondre le plus nombreux possible aux prochaines manifestations prévues le 23 mai et le 28 mai. Juin. Oulala, ça fait 3 mois quand même.
2017.
Au-delà de l'issue qu'aura le bras de fer contre la loi El Khomri, la mobilisation que nous connaissons donc depuis 3 mois est déjà un grand pas pour le monde ouvrier. Elle marque un réveil de la combativité dans une fraction du monde du travail. Seule une minorité des travailleurs s'est mobilisée jusqu'à présent, en faisant grève et en manifestant. Mais cette minorité a bénéficié du soutien et de la sympathie de la grande majorité des travailleurs, parce qu'elle exprimait la colère partagée par l'ensemble du monde du travail et parce qu'elle représentait l'intérêt général du monde ouvrier. Dans la plupart des entreprises à l'échelle du pays, dans le public comme dans le privé, dans les grandes comme dans les petites entreprises, il y a eu des travailleurs qui se sont organisés, ont débrayé, manifesté. Ils ont rompu avec des années de silence et de passivité et c'est ce qu'il y a de plus important. La crise a éclaté en 2007 et c'est aux travailleurs que la bourgeoisie l'a fait payer en multipliant les licenciements, les fermetures d'usines, l'augmentation des cadences, en bloquant, voire en baissant les salaires et en imposant le recul d'une série de droits sociaux. Nombre de petits artisans, des commerçants, des restaurateurs, des chauffeurs de taxi, des petits agriculteurs se sont retrouvés, eux aussi, dans l'impossibilité de joindre les deux bouts. Mais beaucoup d'entre eux se sont battus. Les agriculteurs se sont battus. Les chauffeurs de taxi se sont battus. Les médecins. On a même vu manifester des avocats et des huissiers. Il n'y avait finalement que le monde ouvrier que l'on n'entendait pas, alors qu'il a payé le plus lourd tribut à la crise. Et quand, ces dernières années, Hollande s'est attaqué à la retraite, a augmenté les impôts, a arrosé le patronat de milliards d'argent public, lorsqu'il a généralisé le travail du dimanche, tout s'est passé comme si les travailleurs étaient paralysés, sans voix, presque consentants. Eh bien, cela a changé. Des centaines de milliers de travailleurs ont tenu à affirmer qu'ils existent, qu'ils revendiquent leurs droits et qu'ils refusent désormais d'être sacrifiés sur l'autel des profits patronaux. Ils ont montré que les travailleurs peuvent s'organiser, manifester, faire grève et résister. Ils peuvent en être fiers. Ceux qui se sont battus, mais aussi tous ceux qui ont suivi, solidaires, ce bras de fer entre les travailleurs et le gouvernement, ont beaucoup appris. Ils ont appris à déjouer les pièges et à dénoncer les mensonges gouvernementaux. Ils ont découvert avec quelle haine de classe les travailleurs pouvaient être traités par un gouvernement qui se prétend socialiste dès qu'ils se battent. Ils ont mesuré l'ampleur de la mascarade du jeu parlementaire pour, au final, imposer une loi qui a été écrite sous la dictée du grand patronat. Alors oui, on peut d'ores et déjà dire que ces 3 mois de mobilisation ont renforcé la conscience de classe d'une fraction du monde ouvrier. Cela ne peut qu'aider les travailleurs pour se faire respecter. C'est un gage d'avenir, car la politique et la vie des travailleurs changeront s'ils se battent contre toutes les attaques du gouvernement et s'ils inversent le rapport de force avec le patronat. Oui, les travailleurs peuvent changer leur sort s'ils se servent de leur force collective et inversent leur rapport de force. Bien sûr, la crise et le niveau élevé du chômage affaiblit les travailleurs. Mais les capitalistes ne peuvent pas se passer de tous les travailleurs parce que l'économie continue de tourner. Si les poubelles sont enlevées tous les jours pour le plus grand bien de tous, c'est parce que les éboueurs se lèvent tôt pour les ramasser. Pour que l'essence arrive dans les stations-service, il faut des routiers, des dockers, des travailleurs dans les raffineries, les dépôts de carburant. Pour que des millions de femmes et d'hommes se rendent à leur travail, il faut des cheminots. C'est grâce à ce travail que les entreprises dégagent du profit pour toute la classe capitaliste. Et les récentes grèves l'ont montré, lorsque ces salariés s'arrêtent de travailler, toute la vie sociale s'arrête. Et c'est alors que le patronat, les notables et les politiciens à leur service réalisent, enragés, combien ils sont dépendants des travailleurs. Car on l'a vu, les CRS peuvent déloger quelques centaines de manifestants qui bloquent une raffinerie ou une voie de chemin de fer. Mais ils ne peuvent pas remplacer les salariés de ces raffineries en grève, ni s'improviser conducteurs de train, aiguilleurs ou pilotes d'avion. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les ouvriers sur les chaînes de montage, les employés, les techniciens ou les ingénieurs, qui sont tous des maillons indispensables pour faire tourner les entreprises. Alors oui, par leur nombre, comme par leur présence dans tous les rouages de la vie économique, les travailleurs représentent une force sociale unique dans l'économie. Mais pour que les travailleurs soient en mesure de se battre réellement, et pour qu'ils usent de la force que leur donnent les grèves et les manifestations, il faut qu'ils soient capables d'affirmer leur point de vue de classe, d'exprimer leur mot d'ordre. Il faut qu'ils apparaissent comme une force politique. Le problème, et il n'est pas nouveau, c'est que les travailleurs laissent la politique aux représentants de la bourgeoisie. S'ils veulent Il faut donc qu'ils s'affirment sur ce terrain. S'ils veulent pouvoir s'organiser, combattre la pression et les mensonges patronaux, il faut que les travailleurs mènent aussi le combat politique, en affichant le plus clairement possible leurs objectifs et leurs exigences. Dans leur grande majorité, les travailleurs se sont retrouvés dans le combat contre la loi El Khomri et dans l'objectif de préserver le peu de droits collectifs qui restent encore. Mais cette mobilisation a traduit un ras-le-bol et une colère plus générale contre l'aggravation de l'exploitation et de la précarité, contre le chômage et les reculs des conditions d'existence des travailleurs. Cette colère, ô combien légitime, doit se traduire en objectifs politiques. La classe ouvrière est confrontée à bien des problèmes, des difficultés pour se loger, se déplacer et même pour se soigner. Les travailleurs ont besoin d'hôpitaux, d'hôpitaux publics, de cantines, de crèches. Mais leur vie, leur avenir et le futur de leurs enfants dépendent de leur emploi et de leur salaire. Le chômage et la baisse du pouvoir d'achat sont les fléaux les plus graves qui frappent le monde du travail. Les travailleurs doivent mettre en avant des mesures pour les combattre. Hollande, qui avait promis l'inversion de la courbe du chômage pour fin 2013, la garantit maintenant pour fin 2016. Mais que le chômage passe de 10,2% à 9,8% en fin d'année, grâce aux milliers de formations qui permettront de faire sortir un certain nombre de chômeurs des chiffres de Pôle emploi, la situation sera toujours catastrophique et elle le restera tant que des mesures à la hauteur de la situation ne seront pas imposées. Et ces mesures, ce sont l'interdiction des licenciements et la répartition des emplois entre tous. Et pour préserver les conditions de vie des travailleurs, il faut aussi une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite. C'est l'échelle mobile des salaires. C'est autour de telles mesures que les travailleurs doivent pouvoir se rassembler politiquement. Il faut mettre en avant un programme de lutte pour les travailleurs, de sorte qu'ils constituent une boussole politique, une boussole de classe. La droite, le Parti socialiste et le Front national, qui monopolisent le débat politique, présentent tous leur politique comme favorable aux entreprises en général, aux Français, au peuple. Ils servent en réalité les intérêts des Bettencourt, des Arnault, Dassault, Muliez, Michelin. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat, du point de vue des affaires et des prétendues difficultés de la bourgeoisie. Comme le demande le grand patronat, ils veulent rendre la France compétitive. Les entreprises rentables, la main-d'œuvre flexible et adaptable aux besoins du marché, laissant croire que les salariés y ont aussi un intérêt. Mais l'intérêt général n'existe pas dans cette société. Il y a deux classes sociales, aux intérêts opposés et contradictoires. Les travailleurs d'un côté, le patronat de l'autre, qui s'affrontent en permanence dans les entreprises sur les salaires, le temps de travail, la flexibilité, sur les conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Et pour gagner 10% de rentabilité, eh bien il faut que le patronat supprime 10% de salaire ou impose aux travailleurs de produire 10% de plus dans le même temps. Contrairement aux mensonges de tous ces politiciens, l'enrichissement du patronat dépend du degré d'exploitation des travailleurs. Il dépend de la lutte de classe. Et parler de gagnant-gagnant ou d'intérêt partagé dans l'entreprise, c'est une escroquerie. La lutte de classe n'est pas une invention des révolutionnaires. C'est le quotidien de millions d'hommes et de femmes. Et les politiciens qui le cachent font comme si elle n'existait pas. Et qui font comme si elle n'existait pas sont dans le camp du grand patronat, de ceux qui dominent et qui ont intérêt à ce que rien ne change. Le Parti socialiste, la droite, mais aussi le Front national sont des représentants politiques de la bourgeoisie. Il n'y a pas à s'en étonner. Ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre à cette bourgeoisie. Et ils sont tous les défenseurs du capitalisme et de l'ordre bourgeois. Ils se distinguent en mettant en avant leur politique et leurs prétendues solutions aux problèmes de l'économie. Tantôt c'est l'innovation, tantôt c'est la flexibilité du marché du travail, le remboursement de la dette, tantôt c'est le protectionnisme, la sortie de l'euro ou la sortie de l'Europe. Pas une de ces politiques ne correspond aux intérêts des travailleurs. Accepter de se mettre à la remorque de l'un ou l'autre de ces politiciens quand on est en exploité, c'est nier sa propre existence de travailleur. C'est mettre ses intérêts sous le tapis, c'est ne pas mener le combat. Les travailleurs ont une politique propre à défendre, une politique indépendante. Malgré ce matraquage médiatique qui réduit le jeu politique à l'affrontement entre trois ou quatre grands partis, les travailleurs ne doivent pas se laisser dévier de leur programme de classe. C'est la bourgeoisie et le patronat qui dominent. C'est la bourgeoisie qui est responsable du chômage et des bas salaires. C'est à elle qu'il faut demander des comptes. Les patrons font de leur profit la priorité. Les travailleurs doivent faire de la lutte pour leur emploi et leur salaire leur priorité. Pour accroître ses profits et sécuriser ses affaires, la bourgeoisie veut que la vie des exploités dépende des commandes et des aléas du marché. Mais les travailleurs ne sont pas des machines que l'on peut brancher, débrancher. Ils ont une vie, une famille, leur loyer, les factures qui tombent tous les mois ne sont pas flexibles. L'estomac de leurs enfants n'est pas flexible. Les travailleurs ont donc besoin d'un emploi et d'un salaire garanti. Oui, il faut que les travailleurs opposent à la variété des politiques qui répondent aux problèmes de la bourgeoisie, leur propre politique, leur programme qui répond à leurs problèmes. Ils doivent revendiquer leur dû sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur le profit et sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière, c'est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les exploités dans la guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Et elle veut utiliser les travailleurs comme de la chair à canon, parce qu'au bout du compte, c'est toujours sur eux, sur les plus exploités, que la bourgeoisie fait reposer les sacrifices que cette guerre économique impose. Alors, les travailleurs n'ont aucune raison de marcher. Ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide. Aucune raison d'accepter de se sacrifier pour une économie qui est basée sur leur propre exploitation et sur leur appauvrissement. La lutte des travailleurs pour leurs intérêts matériels et quotidiens est profondément liée à la conscience que dans ce système, les exploités n'ont rien à perdre, si ce n'est leur propre chaîne. Elle est liée à la conscience d'avoir à contester la bourgeoisie et son pouvoir sur l'économie et sur les entreprises. Elle est liée à la perspective d'avoir à renverser le système capitaliste pour fonder une économie sur des bases collectives. Élection après élection, les travailleurs font l'expérience qu'ils ne peuvent pas changer leur sort en votant. Ils savent que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient et qu'une fois élus, les politiciens s'empressent de renier le peu qu'ils ont promis aux travailleurs pour faire la politique des plus riches. Hollande, qui a passé son mandat à piétiner ses engagements de campagne, ne l'a que trop montré. Mais à chaque campagne électorale, ça recommence. Les politiciens jouent la même comédie du changement et promettent un meilleur avenir pour tous. Ce sont des mensonges grossiers, mais répétés semaine après semaine, mois après mois, par un intense matraquage médiatique, ils finissent par porter leurs fruits. Et faute de lutte sociale d'ampleur, l'essentiel de la vie politique tourne autour de ce cirque électoral et de l'illusion que le bulletin de vote confère à chacun un peu de pouvoir. C'est une duperie car le véritable pouvoir n'est pas à l'Élysée ni à Matignon. Les vrais maîtres de l'économie et de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Mittal. Ils disposent des capitaux. Ils sont les maîtres d'entreprise et ils tiennent dans leurs mains la vie de dizaines de milliers de femmes et d'hommes, l'économie et l'avenir de villes, voire de régions entières. Leurs décisions et leur volonté s'imposent à ceux censés gérer les affaires de l'État. Et tous ceux qui accèdent à l'Élysée, à Matignon, tous les hauts fonctionnaires qui font tourner les ministères sont liés par mille liens à ces grands bourgeois. Ils sortent des mêmes milieux sociaux, fréquentent le même monde. Ce sont les bourgeois qui financent même indirectement leurs campagnes électorales. Ce sont les bourgeois encore qui contrôlent les journaux et les médias télévisés et pèsent au quotidien sur la vie politique. Et tous sont unis par le même mépris des pauvres, des ouvriers, des employés. Et pour tous ces politiciens dévoués à l'ordre capitaliste, gérer les affaires de l'État, c'est gérer les affaires de la bourgeoisie. Alors les intérêts des travailleurs ne peuvent pas être représentés par ces gens-là. La conscience de faire partie des exploités et de n'être représenté par aucun de ces grands partis politiques et d'être appelé à voter pour des élections qui ne changeront rien ne doit pas détourner les travailleurs de la vie politique. Car les travailleurs ont des intérêts et un programme à affirmer. Ils doivent les défendre, les faire connaître, essayer de réunir le plus de travailleurs autour de ces perspectives de classe. Et les élections peuvent le permettre. Faire entendre le camp des travailleurs, que ce soit dans les luttes sociales ou dans les combats politiques que sont les élections, c'est la raison d'être de lutte ouvrière. Et c'est pourquoi je serai candidate à cette élection. Je serai candidate en 2017 donc, de façon à ce que les travailleurs combatifs et conscients de leurs intérêts puissent faire un vote de classe, de façon à ce qu'ils puissent affirmer leur fierté d'être des travailleurs, la fierté de faire tourner toute la société et la fierté d'avoir pour perspective de s'émanciper en combattant l'exploitation capitaliste. Ma candidature se distinguera des autres parce que lutte ouvrière ne vise pas à gouverner dans le cadre de cette société. Ma candidature doit servir à ce que les travailleurs s'expriment, se regroupent, montrent aux autres travailleurs qu'il y a un courant qui défend d'autres perspectives que cette société d'exploitation. Les travailleurs, écœurés à juste titre par le spectacle politicien qui ne s'estime représenté par aucun parti, pourront, au travers de ma candidature, faire un vote de conscience de classe. S'ils pensent que la société est riche à milliards et qu'aucun des sacrifices qu'on veut imposer au monde du travail n'est justifié, s'ils pensent que la société est divisée en deux classes et que les intérêts des capitalistes ne sont pas ceux des travailleurs, s'ils pensent qu'il est nécessaire d'affirmer la perspective de renverser le pouvoir du capital, alors ils pourront le dire à la présidentielle en votant pour ma candidature. Soit on accepte le capitalisme et les conséquences qui vont avec, soit on les rejette et il faut avoir pour objectif d'exproprier la bourgeoisie et de renverser le capitalisme. Il n'y a pas de voie médiane. Il n'y a plus de voie pour le réformisme. Il n'y a plus de voie pour ce qu'on appelle communément la gauche. Le Parti communiste français et Mélenchon prétendent connaître une voie permettant à la condition ouvrière de progresser sans pour autant remettre en cause le capitalisme. Mais les lois économiques puissantes s'imposent à tous ceux qui gouvernent. Ce sont les lois du profit, de la concurrence et du marché. Et dans la crise où nous sommes plongés, sauf voler les parts de marché à leurs concurrents, se racheter les uns les autres et spéculer, les bourgeois ne peuvent pas développer leurs affaires. Ils ne peuvent accroître leurs profits qu'au travers d'une guerre de classe féroce qui fera de plus en plus de victimes du côté du monde du travail. Ceux qui se réclament d'une vraie politique de gauche, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Montebourg, peuvent nier ces lois, ils peuvent omettre la dictature de la bourgeoisie, tant qu'ils ne sont pas au pouvoir. Une fois qu'ils y accèdent, et cela a été le cas d'Edmond Bourg et de Jean-Luc Mélenchon, je le rappelle, qui a été secrétaire d'État sous Jospin, ils n'ont que le choix de se ranger ou de démissionner. Jean-Luc Mélenchon appelle ses soutiens à rêver. Mais ce ne sont pas d'illusions dont les travailleurs ont besoin, c'est de conscience. Encore une fois, tous ceux qui occultent et qui refusent de s'en prendre à la domination de la bourgeoisie se vouent à l'impuissance, ou pire, à la servir et à trahir les intérêts des travailleurs. Qu'ils s'appellent Mitterrand, Hollande, Jospin, Montebourg ou Mélenchon. C'est pourquoi nous ne participerons pas aux diverses tentatives pour ressusciter une gauche gouvernementale, que ce soit autour d'un tel ou d'une telle. Nous voulons reconstruire un parti ouvrier qui mette en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Un parti qui prenne position politique du point de vue des travailleurs et de leurs intérêts. Pas des intérêts de la France, des citoyens ou des entreprises, parce qu'il s'agit toujours des intérêts de la bourgeoisie. Nous voulons un parti qui ne véhicule pas d'illusions électoralistes, mais qui dise clairement que le seul moyen pour changer la société, ce sont les luttes des travailleurs eux-mêmes. Nous voulons reconstruire un parti qui place sa confiance dans les travailleurs, dans leur capacité collective à se défendre et à transformer la société par en bas. Dans le passé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire, avec la Commune de Paris de 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917. Ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, nous en sommes convaincus, les travailleurs sont toujours porteurs de cette perspective-là. Nous revendiquons non pas de la gauche, mais du camp des travailleurs. Parler de la gauche, c'est mêler des salariés, des chômeurs, des femmes et des hommes des classes populaires qui votent à gauche, avec des dirigeants politiques dévoués corps et âme à la bourgeoisie comme Valls et Hollande. C'est les mêler avec des hommes riches et méprisants du genre de Macron ou de Cahuzac qui appartiennent à la bourgeoisie, qui ont l'arrogance, le mépris social de la bourgeoisie, et puis aussi sa tradition de frauder au fisc. En politique, la gauche ne désigne plus qu'une écurie de politiciens sans rapport depuis longtemps avec les partis que le mouvement ouvrier a fait naître. Des politiciens qui parlent des grèves et des syndicats avec autant de hargne de classe que la droite ou que le patronat. Alors la véritable frontière politique ne passe pas entre la gauche et la droite politicienne. Elle passe entre le patronat et le camp des travailleurs. C'est une frontière de classe. L'élection se rapprochera, plus le Parti socialiste se servira de la menace du Front National et de sa possible élimination au premier tour pour faire le chantage au vote utile. Ceux qui autour de nous sont tentés par le Front National se trompent gravement. Un parti qui s'en prend aux immigrés, c'est-à-dire à des travailleurs, à d'autres exploités, est un parti qui ne peut être qu'un ennemi et un des pires qui soit. Les idées les plus réactionnaires, les plus racistes, la défense du régime de Vichy, des guerres coloniales et même du fascisme sont dans les gènes du Front National. Et même si Le Pen père a été écarté par sa fille, regardez comment la petite fille, Marion Maréchal Le Pen, cette grenouille de bénitier, drague les royalistes. Et si la crise s'aggrave, ces préjugés basés sur le rejet de l'autre se renforceront. Ils diviseront et affaibliront considérablement les travailleurs et les livreront pieds et poings liés à l'exploitation patronale. Alors, le combat contre le Front National est le combat de tout travailleur conscient de ses intérêts. Les mois à venir doivent être l'occasion de s'expliquer avec tous ceux qui saignent aux sirènes du Front National et du repli sur soi. Car nous ne combattrons pas le Front National par des combines électorales. Compter sur la droite ou sur le Parti Socialiste pour lui faire rempart, c'est se fourvoyer. Sur la politique sécuritaire et l'état d'urgence, sur la politique du droit d'asile, la droite, mais aussi la politique du gouvernement, donne du crédit aux Le Pen en les renforçant, les préjugés et les amalgames contre les étrangers. Oui, le FN est un danger pour le monde du travail et un des pires qui soit. Mais ça l'est parce que les travailleurs laissent la politique dans les mains des seuls représentants de la bourgeoisie, parce qu'ils ne se font pas entendre. Dès que le monde du travail se mobilise sur des bases de classe, il n'y a plus de place pour les idées du Front National, plus de place pour son poison raciste et ses divisions. Alors, se battre pour mettre en avant les intérêts de la classe des travailleurs est le seul et unique moyen de combattre l'influence de ces idées nauséabondes. Le terreau du FN, c'est la crise. C'est cette guerre de classe qui crée le chômage, le chacun pour soi. Alors il nous faut être capables d'offrir des perspectives pour lutter contre le chômage, la précarité et les bas salaires. Il faut nous montrer les adversaires résolus de ce système complètement fou. Il faut reconstruire, il y a un tas de choses à faire. Avec la montée du Front National d'un côté, le terrorisme de l'autre, tout concourt à exacerber le racisme, la méfiance et le rejet de l'autre. Et ce sont là des éléments d'un engrenage mortel. Mais encore une fois, cette évolution réactionnaire, encouragée d'ailleurs par les grands partis qui se targuent d'être républicains, est la conséquence de décennies de recul du mouvement ouvrier. Elle provient du recul de la conscience de classe. Eh bien, il faut contribuer à ce qu'elle renaisse. Et cela passe par la renaissance d'un parti qui, sur tous les événements, prenne position du point de vue des intérêts des travailleurs, d'un point de vue de classe. Contre les divisions semées dans la classe ouvrière d'ici, il faut affirmer la conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines, de nos statuts. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité, de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des soignants, des caissières, des enseignants, qu'on soit en activité, qu'on soit au chômage. Alors, il faut serrer les rangs, il faut rejeter tous ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Contre la guerre et les bombardements sur la Syrie et l'Irak, il faut affirmer que le terrorisme est le fruit pourri de l'impérialisme. Le chaos qui règne dans ces régions, Daesh, qui exerce une des dictatures les plus féroces, sont le produit des rivalités, du pillage et de l'oppression des grandes puissances, des Américains, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Russie, mais de la France aussi, bien sûr. Avec leurs bombes et leurs manœuvres actuelles, ils vont créer de nouveaux monstres. Alors, à bas la politique impérialiste et les interventions guerrières de la France. Contre le sort inhumain qui est fait aux migrants, il faut affirmer pour tous les exploités de cette terre la liberté de circulation et d'installation. On ne peut pas accepter cette hécatombe en Méditerranée. Et allons-nous accepter que la planète se couvre de camps infâmes où l'on enferme femmes, hommes, enfants par dizaines de milliers parce qu'ils ont fui la guerre ou la misère comme si c'était un crime? C'est la fermeture des frontières qui crée le drame humain des migrants. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, y compris bien sûr en Europe, sur ce continent riche de 500 millions d'habitants, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille et sur toutes les bonnes volontés qui existent. Alors il faut que les travailleurs accueille les migrants à bras ouverts et en fasse au plus vite des frères de classe et des frères de combat pour changer de fond en comble ce monde de plus en plus inhumain. Contre l'organisation capitaliste de l'économie, il faut affirmer les perspectives communistes. Crise économique, chômage de masse, crise écologique, les dirigeants actuels, qu'ils soient à la tête des multinationales, des grandes banques ou des États, sont non seulement incapables d'apporter quelque solution que ce soit, mais pire, ils poussent l'humanité entière vers le précipice. Comme les milliards qu'ils extraient de la production et de l'exploitation des travailleurs ne leur suffisent pas, ils les jouent au casino de la finance. Autrement dit, plus nous travaillons, plus nous faisons d'efforts et de sacrifices, plus la spéculation augmente, plus nous risquons la crise généralisée. Y a-t-il plus fou que cette économie-là ? Il n'y a jamais eu autant de richesses. Et pourtant, on ne nous parle que de crise, de déficit. On nous met dans le crâne. Il faut accepter des sacrifices, accepter de vivre moins bien que nos parents, et c'est sans parler de ce qui se passe dans les pays pauvres. Eh bien non, nous ne sommes pas condamnés à cette dictature d'une poignée de grands actionnaires. Il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée des moyens de production sur les usines, les banques, les transports et les grandes chaînes de distribution, qui empêche toute organisation rationnelle de l'économie. Mettre en commun ces moyens de production, c'est le sens profond du mot communisme. Ce mot a été dénaturé et transformé en son contraire, mais il est un des mots les plus riches de signification et des plus beaux. En organisant collectivement les moyens de production, en décidant ensemble, à l'échelle de la planète, ce que l'on produit ou pas, en répartissant les richesses, le chacun pour soi, la lutte individuelle pour la vie pourrait enfin céder la place à la conscience collective que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. Et la seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens, ce sont les travailleurs. Avec la mobilisation en cours contre la loi El Khomri, il y a une réaction de la part du monde ouvrier. Une fraction des travailleurs est sortie de la passivité et est passée à l'action. Et bien nous espérons et nous militons pour que ce ne soit qu'un début. Le début du réveil de la combativité ouvrière. Les premiers pas sur la voie de la reconstruction d'un rapport de force favorable aux travailleurs. Un rapport de force qui nous donnera la possibilité de reprendre l'initiative contre le patronat, de lui demander des comptes et de le faire reculer. Un rapport de force tel qu'il fasse craindre une explosion sociale et force la bourgeoisie et ses serviteurs politiques à en rabattre. Alors, engageons-nous dans ce combat en restant convaincus que tôt ou tard, les travailleurs chercheront le chemin pour un avenir meilleur et il faut qu'ils puissent trouver celui qui mène vers le communisme.